Chapitre 38. La vérité vous libérera. Encore un vieil adage, que je n'ai jamais entendu dans la bouche de mon père celui-là. Vu ce que je sais maintenant de son passé, je crois que je comprends. 6 mois se sont écoulés depuis cette dernière soirée sanglante dans mon appartement. 6 mois d'interrogatoires de police, de récupération de garde-meubles, de résultats d'analyse génétique, avec, oui, même une conférence de presse. J'ai un agent. Elle pense pouvoir m'obtenir des millions de dollars de la part d'un grand studio d'Hollywood. Et bien sûr, il va y avoir un livre. Je ne me vois pas raconter mon histoire à la télévision, ni tirer profit de la tragédie de ma famille. Mais bon, il faut bien manger. Or, ces derniers temps, les clientes ne se bousculent pas au portillon pour me commander des rideaux sur mesure. Je n'ai pas encore pris ma décision. À l'heure qu'il est, je suis sous la douche à me raser les jambes. Je suis nerveuse, un peu excitée. Je pense maintenant plus que jamais que j'ai encore beaucoup à apprendre sur moi-même. Voilà les vérités telles que je les vois jusqu'ici. 1. Ma chienne est solide. Bella n'est pas morte sur le sol de ma cuisine. Non, ma compagne si courageuse a tenu le coup mieux que moi pendant que Bobby nous enfournait à l'arrière d'une voiture de patrouille et nous conduisait à toute blinde aux urgences vétérinaires. Charlie lui avait sectionné l'épaule jusqu'à l'os, avait endommagé certains tendons. Bella avait perdu beaucoup de sang, mais après 2 000 $ de soins médicaux, elle rentrait à la maison. Elle aime bien dormir sur mon lit maintenant. J'aime bien lui faire d'énormes câlins. Pas encore de jogging pour nous, mais on se retape en se promenant d'un très bon pas. 2. Les blessures guérissent. J'ai été hospitalisée 24 heures, essentiellement parce que j'ai refusé de quitter Bella jusqu'à ce que le veto me force à partir et qu'à ce moment-là, j'avais moi-même perdu beaucoup de sang. Il fallut 12 points de suture pour ma joue, 20 pour ma jambe, 31 pour mon bras droit. J'imagine que mes jours de top modèle sont derrière moi, mais j'aime mes cicatrices. Quelquefois, au milieu de la nuit, je suis les fines lignes en relief du bout des doigts. Blessure de guerre. Mon père serait fier. 3. Certaines questions resteront toujours sans réponse. Dans le garde-meuble de mon père, j'ai retrouvé le canapé auquel ma mère tenait tant. Mon album de bébé avec mon acte de naissance original. Divers souvenirs familiaux. Et enfin une note de mon père. Elle était datée d'une semaine après notre retour à Boston, au moment où j'imagine que son anxiété était à son paroxysme. Elle ne donnait pas d'explication. Le 18 juin 1993, mon père avait simplement écrit « Quoi qu'il arrive, sache que je t'ai toujours aimé et que j'ai fait de mon mieux. » S'attendait-il à mourir à Boston? Croyait-il que revenir sur les lieux d'une telle tragédie scellait son destin? Je n'en ai aucune idée. Je soupçonne qu'il savait que son frère était toujours vivant. Mon père avait certainement guetté dans les journaux l'annonce de la découverte d'un corps anonyme dans une maison abandonnée d'Arlington. Et comme rien de tel n'avait été publié, il avait compris que son geste n'avait pas été aussi définitif qu'il l'aurait voulu. Mais alors pourquoi ne pas revenir et réessayer? Pourquoi nous rejoindre ma mère et moi en Floride? Je ne sais pas. Je ne saurai jamais. Peut-être que tuer n'est pas aussi facile qu'il y paraît. Mon père avait essayé une fois et cela lui avait suffi. Alors après, nous avons fui. À chaque fois qu'un enfant disparaissait, à chaque fois que les journaux locaux lançaient une alerte enlèvement, c'était fini. Mon père se procurait de nouvelles identités, ma mère faisait nos valises, et ma famille prenait la route. Par une ironie du sort, la police pense qu'oncle Tommy ne nous a jamais suivis. Même si la balle ne l'avait pas tué, ses lésions cérébrales avaient apparemment mis fin à la plupart de ses pulsions psychotiques. Il avait pris un emploi chez UPS, il était devenu un citoyen modèle, quoiqu'un peu asocial, il était passé à autre chose. Seule ma famille avait continué à vivre dans le passé, toujours à fuir, toujours à chercher un sentiment de sécurité que mon père ne savait pas comment trouver. 4. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Par exemple, après une longue enquête, la police a finalement conclu que la mort de Ben Tommy était un accident. Au cours d'une confrontation armée avec les forces de l'ordre, le suspect avait reçu 4 balles tirées à travers une porte verrouillée par un officier identifié. L'officier avait ensuite pu enfoncer la porte et le suspect blessé s'était rué hors de l'appartement dans une tentative de fuite désespérée. Sous le coup de la douleur et du désarroi, il avait accidentellement basculé par-dessus la balustrade du 5e étage et fait une chute mortelle. Inutile de dire que Bobby et moi ne parlons pas de cet épisode. Didi non plus, qui était en bas dans le hall et qui donc, selon le rapport officiel, n'était pas en position de voir ce qui s'était passé avant le grand plongeon. Mais il y a quelques semaines, Elle m'a donné un t-shirt sur lequel on peut lire « Ça arrive, les accidents ». 5. Même les psychopathes ont l'esprit de corps. Charlie Marvin se révéla être Christopher Eola, l'ancien patient de l'hôpital psychiatrique. La police de Boston pense maintenant qu'il a tué au moins une douzaine de prostituées en se faisant passer pour un généreux défenseur des sans-abri. Empruntant aux méthodes de Ted Bundy, bénévole dans un centre d'aide pour désespérés, Charlie s'était habilement servi de sa position pour s'attirer les bonnes grâces de ses victimes potentielles tout en détournant l'attention de la police. Il s'était récemment enhardi, cependant, car sa dernière cible était la chargée d'enquête Didi Warren. Un expert en écriture confirma que la note laissée sur la voiture de Didi avait très probablement été rédigée par Charlie. Les quatre chiens abattus la nuit du rendez-vous à l'hôpital psychiatrique portaient tous des puces électroniques menant à deux dealers de drogue dresseurs de chiens différents, lesquels confirmèrent qu'un gentil vieux monsieur leur avait acheté leur précieux toutou. D'après ce qu'on pouvait imaginer, Charlie s'était insinué dans l'enquête pour tenter d'identifier et de contacter l'auteur de la tombe collective. Mais entre-temps, il s'était entiché de Didi et s'était lancé dans des petits jeux pour son propre compte. La police a retrouvé de quoi fabriquer une bombe dans son appartement de Boston. Apparemment, il mijotait d'autres crimes quand Tommy l'avait poignardé à mort dans ma cuisine. Les parents d'Eola refusèrent de réclamer son corps. Aux dernières nouvelles, sa dépouille a été déposée dans une tombe anonyme. 6. Il est plus difficile que les gens ne le croient de tourner la page. Nous avons enterré Dory ce matin. Quand je dis « nous », je parle de ses parents, de moi-même et de 200 personnes compatissantes dont la plupart n'avaient pas connu Dory de son vivant, mais avaient été touchées par les circonstances de sa mort. Je vis pleurer des policiers de Lawrence à la retraite, des voisins qui, 25 ans plus tôt, l'avaient cherché en vain dans les bois. La cellule d'enquête de la police de Boston assista au service en retrait. Après cela, Monsieur et Madame Petracelli serrèrent la main de tous les officiers jusqu'au dernier. Quand Madame Petracelli arriva à Didi, elle la serra très fort dans ses bras, et les deux femmes fondirent en larmes. Madame Petracelli m'avait demandé si j'accepterais de dire quelques mots. Pas l'éloge funèbre. Leur prêtre s'en chargea, et il était bien, je suppose. Elle espérait que je pourrais parler de la Dory que j'avais connue, parce qu'aucun des gens présents n'avait jamais eu la chance de rencontrer cet enfant. Ça m'a paru une bonne idée. Je pensais le faire. Mais le moment venu, j'ai été incapable de parler. Les émotions que je ressentais étaient trop fortes pour être exprimées. Dans l'ensemble, je crois que je devrais accepter cette proposition de film, parce que j'aimerais donner l'argent à la fondation de Madame Petracelli. Je voudrais que d'autres Dory soient rendus à leurs parents. Je voudrais que d'autres amis d'enfance aient l'occasion de dire « Je t'aime, je suis désolée. Au revoir. » La vérité vous libérera. Non. La vérité nous apprend seulement ce qui a été. Elle explique les cauchemars que je fais 3 ou 4 fois par semaine. Elle explique les monceaux de factures de vétérinaire et d'hôpital que je dois encore régler. Elle me dit pourquoi un livreur du PS, que je considérais comme une vague connaissance, a fait d'une certaine amie Grayson son unique héritière. Elle explique pourquoi ce même livreur du PS a passé les 15 premières années de sa carrière à changer en permanence d'itinéraire, cherchant apparemment dans tout l'état du Massachusetts une famille qui, il en était persuadé, ne pouvait pas être partie si loin que ça. Jusqu'au jour où, par le plus grand des hasards, toutes ses recherches furent récompensées et il me retrouva. La vérité m'apprend que mes parents m'aimaient vraiment, et elle me rappelle que l'amour seul ne suffit pas. En fait, ce dont on a besoin, c'est d'une identité. Je suis propre comme jamais, jambes et aisselles rasées, une goutte d'huile parfumée à la cannelle au creux du cou et des poignets. Je devrais mettre une robe, mais ce n'est pas moi. Pour finir, je choisis un pantalon noir taille basse et un caraco à paillettes dorées vraiment chouettes, déniché pour une bouchée de pain chez Phelan's Basement. Des talons, forcément. Bella commence à geindre. Elle reconnaît les signes de mon départ imminent. Elle n'aime plus rester seule dans l'appartement, moi non plus d'ailleurs. Je vois encore le corps sans vie de Charlie Marvin étendu dans ma cuisine. Je suis sûre que Bella sent encore l'odeur du sang qui imprègne le plancher. La semaine prochaine, c'est décidé, je cherche un appartement. Après 32 ans, il serait temps que le passé appartienne au passé. On sonne à la porte. Merde, j'ai les mains moites, je suis dans un état pas possible. Je m'approche à pas vifs de ma porte toute neuve en faisant attention de ne pas trébucher dans mes chaussures à talons. Je commence à ouvrir les verrous, 3 au lieu de 5, léger progrès, en priant pour ne pas avoir de rouge à lèvres sur les dents. J'ouvre, et je ne suis pas déçu. Il porte un pantalon kaki avec une chemise bleu clair qui souligne le gris de ses yeux, une veste sport bleu marine. Ses cheveux sont encore humides de la douche. Je sens son après-rasage. Hier, à 2 heures de l'après-midi, alors que la dernière dépouille était identifiée et qu'il ne restait plus personne de vivant à poursuivre, la police de Boston a officiellement clos son enquête sur le crime de Matapan et dissous la cellule de crise. Hier, à 2h01, nous avons passé notre accord. Il me tend un bouquet de fleurs et, évidemment, une friandise pour chien. Il va sans dire que Bella ne sera pas oubliée. « Bonjour, » dit-il, et un sourire plisse le coin de ses yeux. « Bobby Dodge, ravi de faire votre connaissance. Vous ai-je déjà dit que j'adore les barbecues, les clôtures de piquets blancs et les chiens blancs qui aboient ? Je prends les fleurs, donne l'os à mâcher à Bella. Conformément au scénario, je tends une main. Lui, bien sûr, m'embrasse les doigts et des frissons me courent dans le dos. « Ravi de vous rencontrer, Bobby Dodge. » Puis, après une grande inspiration. « Je m'appelle Annabelle. »